Bourse, économie des États-Unis, la stagflation semble inévitable. À moins que... Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes le lundi 4 septembre 2023. Bienvenue, la stagflation semble inévitable. Eh bien oui, nous ressortons d'une semaine qui montre que la situation macroéconomique aux États-Unis se tend. La situation économique aux États-Unis se tend alors que une seconde vague d'inflation. Seconde vague d'inflation ou petite vaguelette d'inflation. Voilà le sujet du moment. Vous savez, la stagflation. Déjà, qu'est-ce que c'est la stagflation? Je vais redéfinir ce concept. Vous allez voir, dans cette vidéo, vous allez assister à beaucoup de choses. Je vais vous rappeler ce qu'est la stagflation. On va voir les exemples historiques aux États-Unis de stagflation. Marché-action ou marché-obligataire? Marché-action ou marché-obligataire? Y a-t-il encore une petite chance d'échapper à cette stagflation? Une économie qui stagne, un régime des prix qui dépasse largement la croissance économique qui, elle, est proche de zéro. Stagnation économique plus inflation. Mais voilà, au final, le dilemme cornélien. Le dilemme cornélien, oui, je pense que l'expression est la bonne. Le dilemme cornélien auquel fait face la Réserve fédérale des États-Unis qui, je vous le rappelle, est attendu le 20 septembre prochain, est attendu sur une pause. Une pause pourquoi? Parce que la situation macroéconomique, notamment du côté du marché du travail. Alors, le marché du travail américain ne détruit pas encore d'emplois, mais le taux de chômage reste sous très haute surveillance, alors que les courbes, les différentes statistiques liées au marché du travail aux États-Unis, et vous en avez vu beaucoup la semaine dernière, notamment les ouvertures de nouveaux postes ou encore l'enquête ADP, les courbes sont baissières et sont sous le consensus. C'est pour ça que l'économie américaine est sous tension, même si elle n'est pas encore en récession, ni même en stagnation économique, à la différence de l'Allemagne par exemple. Alors, sommes-nous vraiment condamnés à ce régime qui est le pire de tous? Il est au sein de tous les régimes macroéconomiques. Bon, bien sûr, la dépression économique, elle, bon, c'est une catastrophe. Hein, mais une vraie dépression économique, on n'en a pas connu depuis les années 1930. Ensuite, il y a le régime de la récession économique. La récession économique, elle, elle est désinflationniste, les prix baissent. La stagflation, on n'en a pas connu tant que ça. On a connu quoi? La stagflation des années 70, avec le choc pétrolier. La stagflation du début des années 2010-2011, lorsque le pétrole montait vers les $100 et que la croissance était très très faible, voire proche de zéro. Et là, maintenant, l'inflation est largement supérieure aux objectifs des banques centrales. L'économie ralentit. En Allemagne, nous sommes déjà en récession technique. Donc l'Allemagne est en stagflation. C'est le régime macroéconomique le plus zoni. C'est le régime macroéconomique face auquel la Banque centrale fait face à un choix cornélien, je vous le disais. Pourquoi? Mais parce que, quel que soit son choix, il y a des effets négatifs. Elle peut décider d'essayer de booster la croissance. D'ailleurs, c'est un des objectifs de la Banque centrale. Le problème, c'est que si elle booste la croissance, qui est proche de zéro, si on prend l'agrégat du PIB, ben elle va booster l'inflation. Ok, très bien. Alors, maintenant, elle lutte contre l'inflation par des taux d'intérêt extrêmement élevés, par une rigueur au niveau des coûts de financement. Mais alors là, l'économie croît déjà à zéro. Elle prend risque de basculer en récession. Et donc, comment elle fait? Elle a deux objectifs. Il n'y a pas de politique entre les deux. Elle marche sur un fil. Elle avance comme ça, elle tâtonne. C'est vraiment, donc c'est effectivement, lorsqu'on voit maintenant l'économie américaine qui se tend, c'est l'expression que je décide de retenir, eh bien, c'est à nouveau donc cette ombre de la stagflation qui revient. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je vais donc, en première partie, vous réexpliquer, vous montrer pourquoi la situation macroéconomique actuelle aux États-Unis, après le rapport NFP, après l'enquête ADP, cette semaine, rappelez-vous, j'ai fait une vidéo il y a 2 semaines où je vous expliquais, où je revenais sur quelle était la probabilité d'une récession aux États-Unis une fois pour toutes. Non, mais c'est vrai, il y en a assez. Bon, bah, malheureusement, dans cette vidéo, j'ai pas pu trancher. C'est pourquoi j'en referai une autre. J'espère que vous vous lassez pas. Bon, cette semaine, je vous ai expliqué que les économies occidentales, mais en particulier, encore plus l'économie des États-Unis, est d'abord une économie de service. Donc le débat là sur récession, dépression économique, stagflation, soft landing, expansion économique, sur le cadre économique prospectif, c'est d'abord les services. Ben, ça, c'est 80% de l'économie. Cette semaine, vous avez la mise à jour du PMI, des services aux États-Unis selon l'ISM. C'est le baromètre numéro 1, le premier tout en haut, pour se projeter sur la dynamique des services. Rappelez-vous, au-dessus de 50 expansion, sous 50 contraction. Il est à 51. C'est tout juste, c'est tout chaud. Et il baisse. C'est vraiment le temps fort, c'est mercredi 6. Ensuite, alors, on va se faire un peu de théorie. Stagflation, définition et liste historique des États-Unis. On va revenir dans le passé. Je vais vous montrer les années 70. Je vais vous montrer le début des années 2010. Action versus obligation, qui performe le mieux en stagflation. On va reprendre tout ça. La Fed sera victorieuse si la stagflation est évitée par une désinflation énorme, par une vraie désinflation structurelle. Voilà, maintenant c'est la question. Seconde vague d'inflation, là vous avez vu que les taux d'inflation rebondissent, ils ne sont pas non plus remontés à 10, mais ils sont remontés de 3 à 3,5 et quelques. Le prix du pétrole a rebondi depuis les $65. Bon, mais il n'y a pas que ça dans les indices d'inflation. Alors, seconde vague ou vaguelette ? C'est le sujet. Ah bah, s'il n'y a pas de seconde vague d'inflation, il n'y a pas de stagflation. Si c'est qu'une vaguelette qui retombe, ok, peut-être que l'économie va stagner, mais si l'inflation revient à 2%, il n'y a pas de stagflation. Et donc là, c'est victoire pour la Fed, podium, mais on n'en est pas là. Et enfin, on se fait un point technique sur les actions et les obligations. Vous avez vu la semaine dernière, le beau rebond des obligations sur leur point bas d'octobre 2022. C'était mon scénario, je suis content. Maintenant, espérons que cela se transforme davantage. On fait le point, c'est parti. Alors c'est parti, chers amis, je me suis réduit. Bourse, la stagflation semble inévitable, à moins que quoi ? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Le plan, je viens de vous le donner, donc je l'affiche à nouveau ici, puis on passe directement à la première partie. Attendez, je remets, on n'a pas bien vu l'animation. On repasse donc à la première partie. Économie US, la situation macro se tend, le taux de chômage US sous très haute surveillance. Effectivement, c'est le juge de paix, vous le savez. Au sein de tous les régimes macroéconomiques possibles, la stagflation est le plus zoni de tous. Pire que la récession économique, parce qu'au moins en récession économique, on sait quoi faire. Il n'y a pas d'inflation. C'est même négatif. L'immobilier dévasté, banque régionale américaine sous pression. Alors j'exagère un peu avec l'adjectif dévasté. Contraction industrielle. La remontée verticale des taux d'intérêt fait déjà des dégâts. Mais finalement, assez localisé. Assez circonscrit. Pardon, un peu mal à la gorge. Le sujet. L'économie américaine, au sens plus large, c'est-à-dire l'économie des services, 80% du produit intérieur brut des États-Unis, va-t-elle perdre son actuelle étanchéité à la valeur actuelle des taux d'intérêt nominaux ? Alors, comme nous l'avons vu dans la vidéo Top Gun, une récession US certaine en 2024 avec un point d'interrogation, seules les statistiques du marché du travail peuvent trancher sur le débat de la probabilité d'une récession ou d'une stagnation économique en 2024. Et justement, les tout derniers chiffres macro montrent que la situation US se tend. Alors, c'est pas encore l'explosion du taux de chômage, hein, on est clair. Mais voilà, on montre quand même quelques chiffres qui ont été publiés la semaine dernière. Alors tout d'abord, l'évolution du prix de l'immobilier en rythme annuel. Bon, vous voyez qu'on reste quand même sur des... On voit bien... Depuis que les taux ont commencé à monter, on voit bien la dynamique. Mais surtout, c'est ça a été un des chiffres majeurs de la semaine dernière. Les ouvertures de nouveaux job postes aux États-Unis, oui. Alors, regardez, la pente, là, c'était la récession du Covid. Vous voyez la pente que ça prend. Et ça, c'était pas attendu. Donc, il n'y a pas encore d'explosion au sein du taux de chômage. C'est vrai que c'est l'ultime juge de paix, le taux de chômage. C'est l'ultime juge de paix. Vous savez, la Fed. Il y a un débat à savoir est-ce qu'elle marquera une pause ou pas le 20 septembre prochain, et voire même en novembre. Est-ce qu'elle a atteint son taux terminal à 5,50 ? Je me répète, c'est le taux de chômage qui compte. Et c'est vrai que pour envisager qu'elle vienne un peu assouplir, un peu d'assouplissement dans cette rigueur monétaire depuis janvier 2022, ça ne peut venir que du taux de chômage. Il faudrait qu'il dépasse avec fracas le seuil des 4% de la population active. Et là, oui. Là, vraiment, peut-être même qu'elle pivoterait. Peut-être même au risque de relancer un peu l'inflation. Mais bon, si le taux de chômage se met à exploser, ce sera désinflationniste. De toute façon, c'est tout. Il y aura moins de consommation. C'est comme ça. Ah, sauf la stagflation. Mais c'est pour ça qu'on va parler de la stagflation. C'est pour ça que je fais justement une vidéo sur ce sujet, qui est un phénomène finalement quand même hyper, hyper rare. Alors, après, on peut être surpris un peu de tels dégâts économiques, mais... Regardez, je vais zoomer ici, regardez ce que je vous montre. Je vous montre ici le taux de crédit immobilier aux États-Unis. Alors vous savez qu'aux États-Unis, ce sont beaucoup des crédits immobiliers à taux variable et en garantie C'est pas crédit logement comme en France, ce sont beaucoup des hypothèques. Donc on parle de taux de crédit immobilier hypothécaire. Regardez l'envolée des taux d'intérêt à 30 ans. C'est quand même gigantesque. C'est quand même gigantesque. Donc voilà, c'est pas, on peut comprendre que la situation économique aux États-Unis se tend. Maintenant, retenez ça, c'est le chiffre majeur de la semaine, le PMI des services selon l'ISM, le chiffre incontournable de la semaine aux États-Unis. Là, on parle de stagflation, on parle d'abord de stagnation économique, de probabilité de stagnation économique. Si ça doit venir, ça vient des services. L'ISM des services est mis à jour mercredi 6 septembre à 16h aux États-Unis. L'économie des États-Unis est une économie dominée largement par les services, tant en termes de poids relatif dans l'emploi qu'en termes de poids relatif dans le produit intérieur brut. Voici le poids des services dans le PIB d'une sélection de pays. États-Unis 80%, France 79%, Suisse 74%, Chine 54%. Par conséquent, le débat sans fin sur la probabilité d'une récession ou d'une stagnation en Occident est d'abord un débat sur la dynamique de l'activité des services. Le meilleur baromètre est de très loin le meilleur baromètre pour obtenir la tendance prospective de l'activité des services est le PMI des services selon l'ISM. J'insiste, selon l'ISM, car vous avez celui de Markit, celui de l'ISM. Et donc, c'est celui-là qui est mis à jour cette semaine. Alors, il est au-dessus de 50, mais c'est celui-là. Et donc, tous les regards, vous savez, le jour où ça passe sous 50, comme au moment de la récession, de la crise financière de 2008, ou celle de la bulle Internet, ou celle de la crise sanitaire, le jour où ça passe sous 50, boum, c'est la récession. Et la Fed, elle va devoir pivoter. Alors, ça peut être désinflationniste. Mais pas forcément. Si c'est pas des inflationnistes, c'est la stagflation. Et alors la stagflation, c'est une catastrophe pour le marché action. Sauf certains secteurs, mais j'y viens. Donc voilà, c'est vraiment le temps fort fondamental de la semaine. Et c'est ça que vous devez suivre. Stagflation, définition et liste historique pour les États-Unis. Alors, comme je vous l'avais dit en introduction, là, on revient un peu dans le passé. On va gentiment se trimballer dans le passé, définir les concepts, voir ce qui s'est passé dans les années 70, voir ce qui s'est passé au début des années 2010. Et bon, voir. Et à la fois sur les actions et les obligations, on va essayer de voir quelque chose de sympathique. Je vous ai préparé des petits tableaux sympas. Alors, le concept de stagflation date des années 1970, dans le sillage des deux chocs pétroliers. Vous vous souvenez du choc pétrolier de 1973 et du choc pétrolier de 1979. La stagflation est une situation économique très difficile dans laquelle une économie affronte une conjugaison paradoxale de concepts. Le concept de la stagnation économique, c'est-à-dire croissance zéro du PIB, alors taux de croissance annuel, ou proche de zéro, et d'une inflation malheureusement forte. Cela se produit lorsque la croissance économique tend vers le seuil de zéro en rythme annuel et en même temps le prix des biens et des services augmente de manière vigoureuse, du moins supérieure à la cible des banques centrales, qui est quand même une cible assez basse. Le taux d'inflation, c'est 2% que visent les banques centrales. Cette configuration macroéconomique est compliquée à gérer car elle oppose deux objectifs majeurs des banques centrales, la croissance et le régime des prix, ce qui crée un choix cornélien. Alors, c'est vraiment les années 70 et la stagflation de 1973 et 1979 qui illustre mieux ce... C'est vraiment ici, la vraie stagflation, c'est celle-là. La vraie stagflation, c'était ça. Les deux chocs pétroliers, 73-79, la croissance économique archi faible, l'inflation galopante, et les taux d'intérêt étaient monstrueux à cette période-là. Là, on a eu une petite stagflation. Et alors là, maintenant... C'est différent pour le Covid. Il y a d'abord eu la récession de la crise sanitaire qui était désinflationniste, mais très vite, l'économie est repartie et maintenant elle ralentit alors que l'inflation a explosé comme plus vu depuis 50 ans. C'est ça aussi la différence. Donc voilà, c'est vraiment le concept de stagflation, c'est ça. Alors, je vous remontre ici, on va regarder au niveau du régime des prix. Je vous ai remis ici les différentes mesures de l'inflation aux États-Unis. Donc vous avez ici le PCE et le CPI en version core et en version globale. Voilà. Alors ici en grisé, vous avez les périodes de récession. Attention, pas de stagnation, de récession. La récession, c'est le taux de croissance économique du PIB négatif. C'est en grisé. Hein, vous voyez, les sources sont indiquées ici. De toute façon, moi, je prends tout sur le site des antennes régionales de la Fed. Hein. Je vais me servir. Aux États-Unis, toutes les datas sont publiques. Faites-vous plaisir. Moi, je passe des jours et des week-ends à farfouiller là-dedans. Ça m'amuse. Donc, voilà. Là, c'était une catastrophe. Regardez. Récession grisée et explosion de l'inflation. Mais regardez les taux d'inflation incroyables qui ont été atteints à l'époque, alors qu'on est en récession. Bon, Voilà. Alors que, en général, des récessions, regardez, les récessions, elles sont toutes désinflationnistes. Mais bah là, non, c'était la stagflation. Ensuite, il y a eu, alors ici, dans le sillage de la crise financière, il y avait eu ici, c'est pas grisé comme une récession, mais il y avait une croissance faible, donc une stagnation, et une montée des taux d'inflation à 3,5-4. Et là, donc, bah, la situation actuelle, l'inflation est largement au-dessus de 2%, et on craint que ça vienne se griser, qu'il y ait une récession, une stagnation. Donc, ça, ce sont comment dire, les exemples. Enfin, je vais vous montrer directement d'ailleurs sur les sur le. Alors oui, là c'était l'enquête ADP de la semaine dernière. Regardez, on va revenir un peu dans le passé. Allons, alors comme ça, je vous montre un peu comment fonctionne TradingView. Allons voir justement, bah, allons voir dans les années 70. Regardez, ici donc on revient dans les années 70. Là vous avez eu donc le premier choc pétrolier. D'ailleurs c'était superbe. Hein, regardez le bear market. Épaule tête épaule, boum, la chute des actions. Ensuite la reprise, et puis vous avez eu ensuite en, comment dire, en ici en 79, il y a eu un second choc pétrolier. Et alors là, bon, le marché action, il y a eu une petite baisse et tout, s'est mis en phase latérale, et ensuite avant de repartir avec les mesures libérales de relance, etc., du début des années 80. Donc voilà, on peut même regarder, on va revenir ici aussi en 2010. Bon, ça c'était 2008. Bon, voilà, c'était OK le bear market de pourquoi j'y suis parvenu, moi. Hop, voilà. On se met du 2010. Allez, ah, voilà. Boum. Voilà. Donc voilà. Alors voilà, ici vous avez, voilà, ça c'est ici, c'était le petit exemple, c'est un tout petit exemple sur le SP500. C'était une période de stagflation, de forte hausse du prix du pétrole, de croissance économique modérée. Il y avait quand même eu une baisse ici du SP500 de 1300 points à 1090 points, donc 20% de baisse était défini ici comme étant un bear market. Bon, alors, on va y venir de toute façon à l'impact sur les actions et les obligations. Alors justement, actions versus obligations, en stagflation, il faut privilégier les obligations et certains secteurs du marché action. Mais clairement, il faut privilégier les obligations, mais attention, je vais être précis sur ce concept. Il faut privilégier les obligations lorsque les taux d'intérêt ont atteint leur point haut dans le resserrement monétaire de lutte contre l'inflation. Je vais être précis. Alors déjà, les actions. Alors, je vous rappelle que les perspectives de profit des entreprises sont le critère numéro 1 de la tendance du marché action. En période de stagflation, donc de stagnation économique, c'est logique. La croissance moyenne des bénéfices des entreprises est proche de zéro. C'est donc un facteur de baisse pour le marché action. Vous me suivez. Mais certains secteurs du marché action peuvent bénéficier de la hausse des prix, ce qui peut soutenir leurs bénéfices. En particulier le secteur de l'énergie ou encore de la consommation discrétionnaire. Ben oui, regardez actuellement, il y a des entreprises qui s'en sortent super bien. Elles nous ont passé des méga hausses de prix, notamment dans l'activité des services. Et là, pourquoi le prix des services ne recule pas malgré ce qu'essayent de faire les banques centrales? C'est parce que les entreprises, tant qu'on les force pas, elles veulent pas réduire leurs marges. Bon, elles le feront vraiment si en face, il y a une baisse de la consommation. Mais on peut pas les contraindre. Enfin, il faudrait faire une loi, quoi, mais on va pas faire ça. Bon. Donc, comment dire, certains secteurs du marché action, je vais vous montrer l'exemple dans un instant du secteur de l'énergie. Logique, hein, le prix du pétrole, forcément, les compagnies pétrolières, très bien, elles se gavent. Bon, très bien. Mais voilà, globalement, overall, la stagflation, eu égard au fait qu'il n'y a pas de perspective de croissance des bénéfices, c'est overall baissier pour les indices boursiers de manière large. Mais il y a des cycles de sous-surperformance en fonction des différents secteurs. Alors, maintenant, les obligations. Alors, les obligations, soyez attentifs. Les obligations, rappelez-vous du concept, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet, vous versez des revenus réguliers avec un taux d'intérêt le plus souvent fixe, le coupon ou le rendement. Lorsque vous êtes exposé à une obligation, vous encaissez votre coupon annuel, si c'est une obligation à taux fixe annuel, et vous êtes exposé au prix de l'obligation. Alors, première observation, c'est vrai qu'une forte inflation réduit la valeur réelle de ce coupon annuel. Très bien. Il est vrai aussi que la hausse, et concentrez-vous là-dessus, il est vrai aussi que la hausse initiale des taux d'intérêt pour contrer l'inflation fait baisser le prix des obligations. Ça a été le krach obligataire de 2021-2022. Alors, en contrepartie, le coupon commence à augmenter. Mais une fois la hausse des taux terminée, alors que le prix s'est stabilisé, une fois la hausse des taux d'intérêt terminés. Regardez là cet exemple, depuis 6 mois, je vous dis, le prix des actions est stabilisé. Parce qu'on est proche des taux terminaux des banques centrales. Et en même temps, maintenant, vous avez des coupons des coupons solides sur de l'investment grade de 3 à 5% pour les entreprises. Ce qu'on n'a pas vu depuis tellement longtemps. Le prix de l'obligation baisse plus parce qu'on est proche des taux terminaux. Donc, il bottomise. Il y a une forte probabilité en termes de ratio rendement risque qui rebondisse. Et en plus, vous avez votre coupon à 5%. C'est là que la stagflation est haussière pour les obligations. En plus, stagflation, stagnation économique. Donc, les actions vont souffrir. Donc, déplacement des capitaux des actions vers les obligations, le principe du flight to quality. Boom, jackpot, rebond du prix des obligations. Et en plus, je prends mon gros coupon. La stagflation est hyper bullish pour les obligations. À ce stade-là, lorsqu'on est proche des taux terminaux des banques centrales. Est-ce que vous me suivez? Mais j'ai déjà fait 1000 vidéos là-dessus. Et alors, imaginons que là, on rentre en stagnation économique et que l'inflation reste forte. Vous avez mieux que ça. Vous avez les obligations indexées sur l'inflation. Périodiquement, le prix et le coupon sont revus en hausse pour tenir compte de l'inflation. Ça vous fera un incrément de hausse en plus. En plus de la hausse qui viendra de la demande pour les obligations, le mark-to-market. C'est ça. Intéressez-vous aux obligations indexées si on rentre en stagflation, notamment en 2024, arrow sur les obligations indexées sur l'inflation. Vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, il y a tellement d'obligations disponibles. Mais là, si on reste sur du simple. Donc voilà, c'est alors je vous fais un petit tableau récapitulatif de tout ça. Enfin, un petit tableau récapitulatif de tout ça ici. Avec, alors j'ai comme d'hab remis, hein, c'est les trois exemples que j'ai pris, choc pétrolier 73, début des années 80 et la période post-crise sanitaire, avec alors les effets sur le SP500 notamment, voilà, bon bah forcément, hein, voilà, hein, et les effets sur les obligations. Alors c'est vrai que d'abord, il y a vraiment d'abord des baisses initiales ou une craque obligataire, mais c'est ensuite que ça devient, d'ailleurs en 2010-2011, il y a eu dans un second temps un fort rebond, et moi c'est ce scénario-là que j'attends pour fin 2023, 2024, pour les obligations. Donc voilà. Voilà. Alors on continue sur ce sujet. D'ailleurs, en dernière partie de la vidéo, on va regarder tout ça. Alors, si la stagflation est évitée par une vigoureuse désinflation, alors la Fed sera victorieuse. Face au choix cornélien de défendre la croissance économique et de juguler l'inflation, hein, c'est soit l'un soit l'autre, la Fed a clairement fait son choix. Elle veut ramener le taux d'inflation sous 2%. La Fed pourra crier victoire si elle y parvient, sans pour autant engendrer une explosion du chômage, liée à la contrainte économique que représentent les nouveaux taux d'intérêt. Le sujet, le rebond actuel de l'inflation, mais je retraiterai ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Le rebond actuel de l'inflation, c'est vrai que le CPI et le PCE rebondissent depuis 3% et remontent vers 3,5-4%. S'agit-il d'une seconde vague ou d'une simple vaguelette? Bah oui, alors, il faut l'inflation. Je vous ai déjà expliqué. Il y a 4-5 composantes que moi qui me paraissent vraiment clés. Qu'est-ce que c'est moche que je fais? Prix du pétrole pour l'inflation énergétique, prix du blé pour l'inflation alimentaire, le coût de l'immobilier. Hein, vous allez voir, c'est une grosse partie. Et le prix des voitures pour l'activité industrielle et surtout le prix des services. Alors, en fait. C'est ça la vraie question. On parle de stagflation, mais si l'inflation évacue, il n'y a plus de stagflation. Il y a une stagflation économique, bah sans inflation. Mais voilà, donc c'est l'autre sujet. C'est l'autre sujet. En cas de stagnation économique accompagnée d'un retour de l'inflation sous 2%, il faut acheter des obligations. Parce que la banque centrale pourra baisser ses taux, corrélation inversée avec le prix des obligations, et boum, ça s'enflamme. Et la stagnation économique, elle contraint les actions par la contrainte sur les perspectives de bénéfices. Mais si jamais l'inflation est vaincue et que nous échappons à la stagnation économique, dans ces cas-là, il faut continuer d'acheter des actions. Vous voyez pourquoi, au final, on en revient toujours à ce principe du cadre économique prospectif. Alors, au sujet de cette inflation, de savoir si c'est une deuxième vague ou pas, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite il y a 2-3 semaines sur ce sujet, et bien sûr, j'en reparlerai. Je vais zoomer là-dessus, mais je vous remonte que plus que jamais, dans les indices d'inflation, regardez dans le CPI et le PCE, le poids de l'immobilier. Alors ici, c'est là où vous retrouvez le pétrole. Ou encore, alors la Fed, elle préfère le PCE parce qu'il y a un poids plus important des services. C'est dommage que les services n'occupent pas une place plus importante. Et bien sûr, vous avez l'alimentation boisson. Tout ça, c'est lié au prix du blé. Alors, bon, on peut jeter un œil, même si je referai une vidéo plus précise dessus. Mais Trueflation nous montre que l'inflation s'est mise à plat. Donc voilà, alors est-ce que c'est une seconde vague ou est-ce que c'est une vagounette? L'inflation alimentaire, regardez, elle est toute proche de zéro. Vous savez, je voulais vous montrer ça. Voilà, c'est l'inflation alimentaire, c'est le prix du blé, hein. C'est complètement corrélé au prix du blé. Alors c'est intéressant, c'est que le prix du blé, il est revenu tout en bas. Ce serait vraiment génial si on cassait ce support. Si on casse ce support, ça va vraiment aider à la désinflation des prix alimentaires. Voilà, ensuite vous avez le rebond du prix du pétrole. Voilà, alors c'est eau d'orange, est-ce qu'on peut... Pour le pétrole, il ne faut pas dépasser 80-90. Ce serait une catastrophe si on dépassait 80-90. Mais voilà, c'est une zone ici où il faudra échouer. Bon, ça je retraiterai ça plus tard dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est dans ce débat autour de la stagflation, c'est... Alors l'immobilier, regardez, il y a, selon Trueflation, il y a un début de rebond du taux d'inflation immobilière, les coûts, hein, qu'on soit propriétaire ou locataire. Alors, est-ce que c'est provisoire? Est-ce qu'on va retomber? Est-ce que voilà? Donc c'est vraiment un des sujets d'inquiétude du moment. Seconde vague ou simplement vaguelette. Et c'est très important dans ce concept de stagflation. Alors maintenant, si j'en viens au concept de stagnation économique, qui est une des parties de la stagflation, je vous refais ici, je vous remontre ça, mais j'ai traité le sujet dans une autre vidéo, les 6 modèles de probabilité de récession pour savoir si la stagnation sera évitée. J'en ai simplement mis 2 à jour. Alors, les deux que j'ai mis à jour, c'est pas moi, c'est parce que les données sont disponibles. Vous avez notamment le Visa Spending Momentum Index, qui est toujours en juillet inférieur à 100. Donc la dynamique des dépenses de consommation est en contraction. Et vous avez le US States Coincident Indexes. Il faut qu'il y ait 27 États en négatif pour que ce soit récessif. On n'y est pas en récession. En négatif, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, lui nous dit qu'on va en stagnation. Lui nous dit non, voilà, c'est toujours pareil. Il y en a 6, 3 sur 3, 3 versus 3. Ça, j'ai déjà traité le sujet, mais je voulais vous remontrer ça, notamment la mise à jour du Visa. Alors, qui par contre a rebondi, hein. On est passé de 95 à 97, alors voilà, bon. Pour l'instant, c'est vrai que l'économie américaine n'est pas en stagnation, hein. C'est pour ça que le marché action, il se maintient quand même bien. Le marché action se maintient quand même bien. Alors justement, maintenant, eh bien, écoutez, les mauvais chiffres. Alors, ce qu'on a observé quand même la semaine dernière, c'est que les mauvais chiffres macroéconomiques publiés la semaine passée ont eu dans un premier temps des conséquences haussières pour le prix des actions et des obligations. Cela s'explique par le fait que ces mauvais chiffres alimentent des anticipations de politique monétaire plus dovish de la Fed, en particulier est-ce qu'elle marque une pause le 20 septembre prochain. Pour le rebond du prix des obligations, là je suis très content, il y a tout d'abord la corrélation inversée avec les taux d'intérêt du marché, et ensuite la demande d'obligations pour leur aspect refuge structurel en cas de risque de stagnation économique. Pour le marché action, prudence, car si dans un premier temps une Fed moins restrictive que prévu peut soutenir les actions, ces dernières baisseront à nouveau si les perspectives de profit sont revues en baisse du fait du ralentissement économique. Alors maintenant, on va regarder un peu les choses, un point rapide sur le plan technique. Alors tout d'abord, ce que je voulais vous montrer, oui c'est ça, alors les taux d'intérêt ont pour le moment échoué sous ces records annuels, que ce soit ici le rendement obligataire américain à 10 ans ou même ici le taux obligataire à 2 ans aux États-Unis, et du fait donc de la corrélation inversée avec les contrats de taux, je vais vous montrer le TLT, hein, on va prendre le TLT, l'obligation longue à duration longue à 20 ans aux États-Unis. Voilà, moi je suis très content, j'avais vraiment ce scénario de rebond sur les plus bas du mois d'octobre 2022. Maintenant, voilà, il faut que ça se mette en place, mais c'est vrai que ça sent bon pour le court terme. Et puis j'ai toujours ici mon superbe graphique de long terme qui me fait dire que voilà, moi j'ai pas de risque à acheter maintenant, je vous garantis, en 2024 c'est gagnant quoi. Donc bon, voilà, donc ça sent plutôt bon. Maintenant, en ce qui concerne le marché action, eh bien j'ai toujours cette hypothèse, rappelez-vous, qu'il manquait une cinquième jambe de hausse. Il semble que je ne sois pas trop dans l'erreur, puisque là on semble avoir fini une quatrième vague. Donc peut-être la 4 de la grande 3 ou de la B, ou peut-être simplement une vraie 4. Bon, voilà, j'avais ce scénario d'une 4, on part dans un dernier mouvement bullish, on a eu le temps d'épurer les divergences. Voilà, c'est là aussi, de toute façon, même si l'économie américaine se tend, tant qu'il n'y a pas d'explosion du taux de chômage, le marché action tiendra sa route. Mais en termes de ratio rendement risque, moi je dis, c'est clairement les obligations qui sont intéressantes et pas le marché action. Alors après, il y a certains secteurs, oui. Si le prix du pétrole remonte à $100, bah d'ailleurs, regardez, l'indice sectoriel des valeurs de l'énergie du S&P 500, voilà, on est sur les records, des records quand même de plusieurs années, parce que le pétrole tient la route. On voit bien l'impact depuis 3 semaines des actions du secteur de l'énergie du SP500 en lien avec le prix du pétrole. Mais en même temps, le prix du pétrole, si on rentre vraiment en stagnation économique, son rebond ne va pas durer longtemps. Voilà, chers amis, eh bien écoutez, ainsi s'achève la nouvelle édition du Top Gun. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, on continue d'actualiser ça chaque semaine. Merci encore une fois pour vos abonnements, vos likes et à très vite. Salut.